Chronique extraordinaire de vie ordinaire. La grisaille d'hiver plombe le ciel de la petite ville de l'Ouest. Bientôt, le bleu surgira, avec l'écume des flots, les bruissements des vents et la danse des goélands. Ce matin, Joseph se rend chez une de ses patientes. Il traverse la campagne boisée et il se dit que les oiseaux ont de la chance. Tous les cris et les malheurs du monde sous leurs ailes ne les empêchent pas de voler. Joseph, il est arrivé sur ce petit coin de terre à la pointe du continent il y a 30 ans. Il avait quitté son pays pour continuer ses études de médecine, ici, dans le pays des Lumières, phare dans l'obscurité du monde, qui l'inondait d'espoir, de liberté, de fraternité, d'égalité. Et puis, il avait découvert que le phare s'éteignait de plus en plus souvent et restait éteint de plus en plus longtemps. Il avait fait son internat dans un hôpital non loin de la petite ville. Il avait pratiqué de nombreux accouchements et avait fait naître des petits bouts d'hommes et de femmes dont certains étaient devenus ses patients. À la fin de son internat, il avait remplacé un médecin décédé dans la petite ville. Il devait s'y poser un mois, il y était toujours, 25 ans plus tard. Après le remplacement, les patients avaient signé une pétition pour le garder. Il demandait au maire pourquoi chercher plus loin alors que celui-ci convenait tout à fait. Il avait adopté Joseph, il s'était senti chez lui. Car chez lui, c'est là où il vit. Ce matin, il arrive chez Annie, une de ses plus anciennes patientes. Elle a du mal à respirer, les antibiotiques n'ont pas été efficaces. Il l'ausculte et lui propose d'aller faire des examens complémentaires à l'hôpital. Annie, elle est veuve. Son mari a disparu en mer sur un chalutier il y a quelques années. Parfois, elle se prend à rêver qu'il réapparaîtra avec son attirail de pêche, qu'il a juste besoin de faire une pause, loin de leur tracas du quotidien, d'aller voir ailleurs, au-delà des mers. Souvent, Annie, elle observe la porte, attend qu'elle s'ouvre et que sa grande carcasse apparaisse. Elle dit à Joseph qu'elle ne peut plus conduire et que sa fille qui a accouché il y a un mois a le bras paralysé depuis la naissance du bébé. Joseph lui promet de trouver une solution. Joseph, il n'a jamais su dire non. C'est sans doute lié aux origines, à la pauvreté, à la peur que ça rende encore plus fragile de refuser d'aider. Il décide de passer voir la fille d'Annie. Il l'a vue naître, Nadine. C'était son premier accouchement à l'hôpital et il n'en menait pas large. Nadine, elle a eu son premier enfant à 18 ans, une fille. Et le dernier bébé, 2 ans après, c'était une fille aussi. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à bouger le bras depuis l'accouchement de sa 3e fille. Elle ne peut pas s'occuper du bébé correctement. Une sage-femme lui a dit que si elle aimait son bébé, il n'y avait pas de raison qu'elle ne la prenne pas dans ses bras. Joseph lui demande si elle aime sa fille. Nadine dit que oui, mais elle aurait préféré un garçon pour faire plaisir à son mari. Lorsqu'elle a appris que c'était une fille, les bras lui en sont tombés. Joseph lui dit « Tu vois, tu sais maintenant pourquoi tu n'arrives pas à la porter. »
Ne me demandez pas pourquoi, quand vient l'hiver et le grand froid, on voudrait tous mourir. Comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras, on voudrait tous partir. Retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante, oh reviens soleil, soleil. Regardez jamais en bas où le méchant loup vous mangera, vous perdrez l'équilibre. On va tous compter jusqu'à 3 et faire une chaîne avec nos bras sur la route du sud. Retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil.
Joseph, il fatigue. Il a des douleurs abdominales fréquentes depuis quelque temps. Il décide de consulter. On lui annonce qu'il va falloir opérer rapidement pour faire des analyses plus poussées. Joseph, il a toujours trouvé que vieillir, c'était pas bientôt mourir, mais apprécier ce qui nous reste à vivre. Mais là, il s'inquiète. Comment faire pour annoncer à ses patients qu'il sera absent quelque temps, comme un fils qui décide d'abandonner ses parents sans leur dire quand il reviendra? Comment faire pour trouver un remplaçant qui acceptera les journées sans horaire, les week-ends de garde, les déplacements sur les routes de campagne, sur les chemins cabossés et boueux des fermes dans l'obscurité des hivers pluvieux et brumeux? Joseph, il croit en la médecine humaine. Il pense que tout ne se soigne pas par les médicaments, qu'on ne sait pas tout, même en étant diplômé, qu'un médecin honnête doit le reconnaître et accepter d'être curieux. Pour lui, la matière et l'esprit sont les deux faces de la même médaille qui constitue un être humain. Il a vu M. Martin être soigné par un rebouteux pour une sciatique qui n'en finissait pas. Il a entendu les agriculteurs qui, pour arrêter un saignement de nez, prennent la clé de la grange. Il s'y intéresse et connaît quelques lois de la nature. La clé est un vecteur de froid et permet d'ouvrir ou de fermer les vaisseaux sanguins. Quant au rebouteux, il barre le mal et c'est l'essentiel. Pour Joseph, le corps humain a de quoi guérir, il suffit de l'informer. Mais maintenant, il ne sait pas trop quoi dire à son propre corps, à ses entrailles secrètes qui lui en font voir de toutes les couleurs. Il espère trouver la solution avec ses collègues, ouvrir le bon tiroir. Il a réussi à trouver une remplaçante grâce à un ancien collègue de l'hôpital, une jeune interne arrivée comme lui de loin. Il la rencontre et l'emmène voir quelques patients. Ils sont méfiants, ne comprennent pas pourquoi Joseph devrait partir et pour combien de temps. Ils pensent que cette jeune femme, elle ne tiendra pas le coup. La vie est trop rude ici, elle va vite déchanter et tourner les talons. Elle, impassible, entend les craintes, voit les visages fermés. Elle s'appelle Nora et rien ne la prédestinait à travailler ici. Elle a dû fuir une vie de violence et a accepté ce qu'elle a trouvé. Elle était diplômée chez elle, mais a dû repasser des examens ici parce que les compétences s'arrêtent aux frontières. Elle pensait qu'en ignorant les ombres, elle s'évanouirait dans les brillances de l'espoir, car elle croyait en la puissance du phare, comme Joseph. Nora, elle sait que le corps de Joseph est à bout, qu'à force de soigner ceux des autres, il a oublié le sien, mais qu'il lutte pour tenir, que la peur n'a pas sa place. Elle lui promet que tout ira bien, qu'il peut compter sur elle. Joseph, il part à la grande ville, reste à l'hôpital quelques semaines. Lorsqu'il ressort, il sait que ce qui lui reste à vivre, il devra le vivre intensément. Il retrouve Nora. Elle a revu Annie, qui va mieux depuis que sa fille a retrouvé l'usage de son bras. Et la sciatique de M. Martin a totalement disparu. Le vieux François refuse de partir à l'hôpital. Alors elle a réussi à trouver une solution de garde à domicile avec l'infirmière et une aide-soignante, mais elle ne sait pas s'ils pourront tenir jusqu'au bout. Elle s'apprête à retourner à la grande ville. Joseph lui demande si elle sait ce qu'elle fera après. Elle a quelques pistes, rien de certain. Alors Joseph lui demande si elle accepterait de rester. Il y a du travail pour deux. Nora, elle a envie d'y croire. Elle sait qu'ici ou ailleurs, elle devra faire ses preuves. Elle a vu que dans la petite ville et aux alentours, une fois qu'on donnait, on vous le rendait au centuple. Alors elle dit à Joseph que son visa de travail expire bientôt, que la loi vient de changer et que ce sera compliqué de pouvoir le prolonger. Et qu'en attendant que sa demande soit examinée, elle ne pourra pas travailler. Joseph ne comprend pas. Il voit le phare pourtant qui continue à clignoter. Il se dit que peut-être sa vision déraille. Il lui dit qu'en attendant, elle pourrait s'installer ici et lui donner un coup de main, loin des lumières du phare, qui sert à contrôler au lieu d'ouvrir la voie. Car il sait qu'elle n'a pas vraiment d'autre endroit où aller et que retourner loin, là-bas, ce serait plonger dans un hiver sans fin. Et sous le ciel bleu voilé de la campagne à l'ouest, avec Joseph et Nora qui parcourent les chemins cabossés de la campagne à la rencontre de corps et d'âmes à soigner, rien ne vaut la vie, loin de l'écume des flots et des bruissements des vents.
À ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières?
Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.